Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Madame, Monsieur, bonjour. À la une, ce tête-à-tête, Félix Tshisekedi, Antonio Guterres, hier à Addis Abeba, en marge du 39e sommet de l'Union africaine. Le chef de l'État insiste sur l'urgence d'un appui technique et crédible de la MONUSCO afin de garantir la mise en œuvre du cessez-le-feu. Nous parlerons infrastructure avec le début des travaux de réhabilitation des routes Petit Kasai Bulungu Anga ainsi que Bachamba Gungu Kakokola dans le Kwilu. Ce projet piloté par l'Agence congolaise de grands travaux couvre une distance de 65 km. Il est exécuté par Sino Hydro 14. L'ONG Enfants pour l'avenir et le développement alerte sur la poursuite du recrutement d'enfants par une dizaine de groupes armés dans la région de Beni Boutembo et Lubero au Nord Kivu. Elle estime à plus de 2000 ceux qui ont été enrôlés en 2025. Nous en parlons avec son coordonnateur Germain Aloufungula. Bienvenue à cette édition du journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a rencontré le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, hier à Addis Abeba, sur en marge des travaux du 39e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, ouvert ce samedi dans la capitale éthiopienne. Selon la présidence congolaise, les deux personnalités ont évoqué l'excellente coopération entre la RDC et l'ONU. Ils ont aussi abordé la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, le renforcement du multilatéralisme et le rôle stratégique de la RDC en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Kassam Zatou nous donne les grandes lignes de cette rencontre.
Au cours de cette rencontre, le président de la République a réaffirmé l'engagement du pays dans la consolidation des efforts de paix, la nécessité de passer des exhortations aux actes afin d'assurer le respect strict du droit international et des engagements souscrits dans le cadre des mécanismes régionaux et internationaux. Le chef de l'État a également insisté sur l'urgence d'un appui technique et crédible de la MONUSCO pour garantir l'opérationnalisation du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu en application de la résolution 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies. De son côté, le secrétaire général de l'ONU a assuré l'appui des Nations Unies dans la mise en œuvre de l'architecture des cessez-le-feu établie. En outre, il a salué l'entrée de la RDC au sein du Conseil de sécurité de l'ONU et sa volonté de défendre un multilatéralisme juste et efficace, une posture qui traduit les aspirations de l'Afrique à jouer un rôle central dans la gouvernance mondiale, rapporte la présidence de la République.
Ici au pays, la commission d'éducation civique et d'observation électorale et du ciel a adressé un mémorandum au président Félix Tshisekedi mercredi dernier. À travers cette démarche citoyenne, elle dit vouloir prévenir un chaos constitutionnel et politique si les élections ne se tiennent pas dans le délai constitutionnel. Pour Éduciel, la RDC est dans la salle d'urgence avec la misère sociale et l'insécurité qui couvre presque tous les territoires nationaux. On écoute à ce sujet Maître Carlos Tomopili, coordonnateur de cette ONG au micro de Jean-Désiré Kanyama.
L'Éduciel, comme cadre de concertation par excellence de la société civile électorale, observe que la feuille de route publiée par la CENI pour faire décoller le processus électoral de 2028 est bloquée parce que le gouvernement soumis ne décaisse rien malgré la prise en compte dans les lois des finances 2024-2025. L'Éduciel propose au président Félix Tshisekedi, avant de convoquer les dialogues politiques, de convoquer urgemment d'abord le dialogue national électoral qui aura une particularité technique, scientifique, patriotique pour débattre sur la réforme institutionnelle de la CENI, du juge électoral, de la loi électorale et du projet de calendrier électoral pragmatique. Donc, les options du cadre juridique et institutionnel électoral. Donc, c'est à partir de ces résolutions-là, de ces projets de conclusion, qui seront déversés maintenant dans le dialogue national et politique.
L'université ougandaise King of Kings vient de décerner au professeur congolais Louis Akilimale le titre de docteur honorifique en paix et gestion des conflits. La distinction lui a été attribuée vendredi lors d'une cérémonie officielle organisée à Kirimbi en Ouganda. Pour le professeur Louis Akilimale, cet honneur renforce sa détermination à œuvrer pour la paix en République démocratique du Congo. Il appelle ainsi différentes parties impliquées dans les conflits actuels à transformer ces crises en véritables opportunités de paix. Il est au téléphone de Bernard.
La paix est un processus continu qui nécessite la participation de chacun. Pour mon pays, il est sans doute possible de transformer ces conflits en opportunités de dialogue communautaire et politique dans le respect strict suite de la Constitution et de la justice, non plus pour le partage du pouvoir entre politiciens comme il a été toujours le cas, mais une occasion pour la paix réelle et la promotion d'un développement durable. En recevant ces documents si précieux, mon doctorat honorifique en paix et gestion des conflits, je souhaite réaffirmer mon engagement pour la paix et la gestion pacifique des conflits, non seulement pour mon pays, mais également pour l'Est de l'Afrique et l'Afrique entière.
Lors de la même cérémonie, une dizaine d'étudiants congolais ont défendu leur mémoire de master et thèse de doctorat à cette université ougandaise. Sachez que le professeur Louis Akilimali, secrétaire général académique de l'Université des Martyrs du Congo, est également le représentant de King of Kings, Université de l'Ouganda en RDC. Nous sommes en Ituri. Les FARDC poursuivent depuis jeudi les opérations de traque du groupe armé Convention pour la Révolution Populaire, la CRP. Cela se passe vers Mabanga, environ 50 km au nord de Bunia, dans les territoires de Djougou. Sur le porte-parole de l'armée en Ituri, le bilan provisoire fait état de 12 miliciens tués, 7 armes récupérées ainsi que de plusieurs effets militaires saisis. L'armée appelle ses combattants à déposer les armes et à contribuer au développement de leur communauté au lieu de poursuivre les violences. Le lieutenant Jules Ngongo explique ce qu'il en est au micro d'Isaac Raymond.
Dans le territoire de Djougou, l'armée poursuit les opérations de traque et de neutralisation contre la milice CRP de Thomas Lubanga à lieu du M23. L'armée régulière a neutralisé 12 miliciens de la CRP de Thomas Lubanga, 7 armes de type AK-47 récupérées et bien d'autres effets de guerre, entre autres le munitions. Lors de ces opérations, des miliciens de la CRP ont été capturés. Pour le moment, nous continuons les opérations dans cette zone de Mabanga. Ces opérations se sont déroulées à Bini et au village Moussa et Moussamba. Nous lançons un message fort à tous ces jeunes qui croient encore à leurs aventures. Il est grand temps de déposer les armes et se rendre aux forces armées. Il n'y aura pas pitié pour ceux qui déstabilisent la province. L'unique solution, c'est se rendre aux forces armées pour avoir la vie sauve.
Parlons infrastructures, les travaux de réhabilitation et de modernisation des routes Petit Kassai, Bulungu, Anga, ainsi que Bachamba, Gungu, Kakobola dans la province de Kwilu ont débuté vendredi. C'est l'administrateur intérimaire du territoire de Bulungu, Trifon Mokonzi, qui a procédé au lancement officiel de ces chantiers. Cela s'est passé en présence des cadres et agents de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, ainsi que de ceux de l'entreprise exécutante Sino Hydro 14. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Le lancement de ces travaux a eu lieu au village Petit Kassai, point kilométrique zéro de ces projets. Dans son mode de circonstance, l'administrateur intérimaire du territoire de Bulungu a salué la concrétisation de ces projets tant attendus par sa communauté. Trifon Mukundi.
Je suis ici depuis mon enfance, j'ai grandi à Bulungu. L'autre fois, je me suis rendu à Bulungu, nous avons fait toute une journée. Vous voyez, la route est sablonneuse. Mais avec l'agence congolaise des grands travaux, vraiment toute la population de Bulungu, nous sommes très contents de voir cette réalisation. Nous aurons beaucoup d'opportunités sur cette route.
Il a ensuite appelé la population au civisme et à l'appropriation de ces travaux. La route Petit Kassai-Bulungu constitue la section la plus fréquentée de la route nationale numéro 18 pour atteindre les chefs-lieux du territoire de Bulungu malgré son état sablonneux qui complique souvent les passages des usagers. Ce projet, piloté par l'Agence congolaise des grands travaux, couvre une distance de 65 km de long et 10 mètres de large allant du village Petit Kassai jusqu'à la cité de Bulungu, incluant la bretelle menant à la cité de Vanga.
Et puis ce drame qui a eu lieu vendredi sur la rivière Kalelu, frontière naturelle entre les provinces de Lomami et du Kassai oriental. Selon des témoins, un minibus en provenance de Ngandajika a chaviré lors de la traversée. Le bilan fait état de 8 morts et de dégâts matériels importants. Ce véhicule avait à son bord plus d'une douzaine de personnes. Seuls 4 ont survécu d'après ses sources. Explication avec Esther Dalafina.
Les circonstances exactes du drame survenu sur la rivière Kalelu entre le Kassai oriental et la Lomami ne sont pas encore établies. Certains témoins affirment que le conducteur aurait demandé aux passagers de rester à bord du véhicule durant la traversée, provoquant une surcharge qui aurait déséquilibré l'embarcation à l'accostage. D'autres évoquent une manœuvre inappropriée du chauffeur ayant entraîné le basculement du minibus dans les eaux profondes. Arrivé sur le lieu quelques heures après l'accident, l'administrateur du territoire de Nganajika, Patrick Sombola, a annoncé un bilan provisoire de 4 rescapés. Il signale cependant que les recherches vont se poursuivre pour retrouver les corps coincés dans les véhicules. Ce drame survient alors qu'un communiqué officiel publié jeudi dernier avait suspendu la traversée des véhicules sur le bac pour des travaux d'entretien. L'administrateur justifie la non-application de cette mesure par l'indisponibilité de l'engin nécessaire pour tirer le bac hors de la rivière. Il y a quelques semaines déjà, quelques usagers de cette route ainsi que quelques notables locaux avaient alerté sur l'état dégradé de l'embarcation, la jugeant dangereuse pour les traversées sur la rivière Kalelu. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Parlons de ce malaise au sein de l'université de Kalemie-Unikal dans la province de Tanganyika. Des tracts ont été jetés dans la ville de Kalemie appelant à une grève et une manifestation des étudiants. Le recteur de l'Unikal ainsi que certains étudiants contactés par Radio Okapi confirment le malaise au sein de cette institution universitaire. Cependant, le recteur rejette en bloc les allégations mentionnées sur le tract. D'après lui, il s'agit d'une manipulation. Paula Munanga nous en dit un peu plus sur ces tracts et également sur ce qui est reproché au recteur.
Sur le tract, il y a des appels à la suspension des activités dès ce lundi, l'organisation d'une manifestation pour exiger le départ immédiat du comité de gestion. Le tract mentionne aussi la mégestion caractérisée et l'absence notoire du recteur au sein de l'institution. Il y a aussi le non-paiement des enseignants et l'incohérence du taux, une situation qui provoque une perturbation grave du calendrier des cours, peut-on lire sur ces documents non signés. Contacté par Radio Okapi, le recteur de l'Unikal rejette ces accusations. Victor Kalunga Chikala dénonce la manipulation et annonce que son absence prolongée est due au fait qu'on a attenté à sa vie.
Le plus simple pour ces étudiants était de savoir, mais pourquoi est-ce que le recteur est absent depuis très longtemps? Et la réalité, c'est que j'ai été empoisonné à Kalemie et je suis en train de poursuivre les soins. La mégestion, c'est quoi? L'université de Kalemie, c'est une université de 1500 étudiants passés à l'université de Kalemie. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire. On est en train de construire un bâtiment de 60 mètres. À part les bâtiments construits par le chef de l'État, nous sommes l'une des rares universités qui sont en train d'effectuer de si grands travaux avec les maigres moyens. Donc, c'est simplement de la manipulation parce qu'il y a du tribalisme.
Lubumbashi, Paula Munanga, Radio Okapi.
Parlons de cette réalité à ne pas oublier, l'Ituri ne se résume pas à la guerre. Cette province regorge également d'innombrables talents de jeunes qui contribuent positivement à redorer l'image de cette partie du pays. Sous le message porté par le gouverneur de province à travers sa conseillère en charge de la jeunesse à l'issue d'une soirée de gala et de remise de trophées organisée samedi à Bounia. Au cours de cette cérémonie, plusieurs personnalités, artistes et journalistes ont été primés pour le travail accompli dans différents secteurs. C'est un reportage signé Jean-Claude Lokiti.
Humoriste, artiste, musicien, journaliste, créateur de contenu sur TikTok, opérateur culturel et entrepreneur ont reçu des distinctions en guise d'encouragement pour leurs efforts visant à mieux promouvoir l'image de l'Ituri. Vérité Johnson, secrétaire exécutif du collectif des journalistes culturels de l'Ituri, structure organisatrice de cette soirée, explique la motivation de cette initiative.
La province de l'Ituri est actuellement plus connue à l'extérieur comme une terra histoire tumultes. C'était important de mettre à lumière les talents de la province de l'Ituri. Nous mettons à lumière surtout leur savoir-faire et voilà.
Cette cérémonie a également servi de tribune à Madame Irène Voïka, conseillère du gouverneur en charge de la jeunesse, pour appeler la population à s'engager en faveur de la paix et de la cohésion sociale.
Parce que l'intérêt de l'Ituri, c'est la paix et le développement et c'est très important qu'on soit unis ensemble pour des occasions pareilles et c'est ce qui doit nous interpeller. Qu'est-ce que nous voulons vendre de l'Ituri à l'extérieur?
Environ une centaine d'invités, dont certains venus des territoires d'Arou et de Mahagi, ont pris part à cette deuxième édition d'Ituri Vipadi Award, marquant ainsi la volonté de promouvoir une autre image de la province. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Okapi.
Merci Jean-Claude Loki. À l'occasion de la journée internationale pour la prévention de l'extrémisme violent, célébrée le 12 février, une cinquantaine de femmes membres des associations féminines de la ville de Beni au Nord Kivu ont été sensibilisées vendredi au danger que représente ce phénomène pour la paix et la cohésion sociale. Cette activité organisée par le groupe consultatif de médiation dans la région de Beni visait à renforcer les capacités des participantes face à l'extrémisme violent identifié comme une menace majeure dans une zone touchée par l'activisme des ADF affiliés à l'État État islamique. Toudi Diane Toumba, coordinatrice intérimaire de l'organisation, appelle à une mobilisation générale pour lutter contre l'extrémisme violent. Elle est au micro de Marc Maroufimbo.
Si nous prenons les camps de meurtres que nous observons avec les ADEF, vous allez comprendre que l'extrémisme est violent pour nous ici. Ça nous cause beaucoup de problèmes. Nous sommes des victimes, nous sommes tués, nous sommes violés, nous sommes mutilés. C'est parce qu'il y a multiplicité d'extrémisme violent dans la partie grand nord de la République démocratique du Congo. Nous appelons à la mobilisation de masse, de couper l'hémorragie quant à ces. Et surtout, avec la technologie actuelle, nous devons limiter ou cesser carrément d'utiliser ces images, ces messages des extrémistes dans nos téléphones, de transférer, de faire leur campagne, surtout que ça nous honore pas. Et ce sont ces gens-là qui nous tuent, qui nous maltraitent, qui ne prennent pas sur les droits de l'homme. Que cette journée soit une journée de sensibilisation, de mobilisation, de conscientisation pour nous, la population du Grand Nord.
Actualité internationale.
Giorgia Meloni, la première ministre italienne, s'est rendue vendredi en Éthiopie pour le deuxième sommet Italie-Afrique. Objectif, renforcer l'influence de Rome sur le continent grâce au plan Mattei, un projet ambitieux mêlant économie, diplomatie et lutte contre l'immigration. À Addis Abeba, Giorgia Meloni défend une vision. L'Afrique doit pouvoir exploiter ses propres richesses sans dépendre des puissances étrangères. Un message fort alors que l'Italie cherche à se positionner face à la Chine et à la France. Le plan Mattei, du nom de l'ancien patron de l'énergie italienne, mise sur des investissements massifs, infrastructures, énergie et surtout une lutte contre les causes de l'immigration.
L'invité.
Le monde a célébré le 12 février la journée internationale de lutte contre l'utilisation des enfants soldats, communément appelée journée de la main rouge. Objectif, sensibiliser l'opinion mondiale au recrutement et à l'utilisation des enfants dans des conflits armés. Il s'agit aussi de mobiliser les gouvernements, les organisations et les populations pour les protéger contre cette exploitation. À cette occasion, l'ONG Enfants pour l'avenir et le développement et ADEV, active dans la protection des droits de l'enfant, alerte sur la poursuite du recrutement d'enfants par une dizaine de groupes armés dans la région de Bénin. Boutembo et Loubero au Nord Kivu. Elle estime à plus de 2000 le nombre d'enfants enrôlés en 2025. Pour en parler, Germain Lufungula, coordonnateur de l'ONG, est notre invité. Ils sont chrétiens avec Martial Papimukeba.
Germain Lufungula, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quelle est la situation actuelle des enfants à Beni, Boutembo et Loubero face au recrutement par les groupes armés?
La zone Beni, Boutembo, Loubero, que nous appelons communément le Grand Nord Kivu, la situation des enfants, elle est vraiment inquiétante. Le recrutement d'enfants, il se porte à bonne santé. Nos statistiques de fait d'année 2025 ont réalisé qu'il y a au moins 2054 enfants, parmi lesquels 423 filles et 1631 garçons exploités, utilisés par les responsables des groupes armés. C'est vraiment un chiffre alarmant.
Et quels sont les groupes armés qui se sont beaucoup plus illustrés dans les recrutements des enfants?
Pour le moment, dans la zone, nous avons plus de 50 groupes armés, mais il y a 19 qui brillent vraiment par l'utilisation des enfants au sein de leur rang. S'il faut les citer, nous avons les deux groupes communément connus comme l'ADEF, le M23, mais à côté de cela, il y a beaucoup de groupes armés nationaux. Donc les statistiques au sein de leur groupe, c'est plus inquiétant par rapport aux autres groupes armés. D'abord pour les ADEF, c'est à travers les enlèvements. On enlève les enfants pour faire d'eux maintenant des combattants. Les M23, il y a par tromperie, par ruse, on fait des promesses d'argent, on fait des promesses de partage de pouvoir. Ils parviennent à attraper les enfants qui n'ont pas vraiment de consentement. Ils les entraînent facilement.
Quelles sont les actions que votre organisation et ADEV mettent en place face au recrutement des enfants par les groupes armés dans la région de Beni, Boutembo et Loubero?
La première action, c'est la prévention. Nous sommes déployés vraiment dans la zone pour faire le monitoring de cette question des recrutements. Chaque fois qu'il y a des cas, nous alertons pour que les actions soient prises. À côté de cela, nous faisons la mobilisation communautaire à travers des sensibilisations. Nous travaillons aussi avec des structures communautaires que nous renforçons, qui sont des structures ancrées dans la communauté, qui nous aident dans le monitoring et qui nous aident aussi à faire la sensibilisation de porte à porte au sein des membres de la communauté.
Comment vous accompagnez également les enfants qui ont déjà été impliqués dans des groupes armés pour y trouver une vie normale? Donc les enfants sortis des groupes armés.
Pour les les enfants qui sont sortis des groupes armés, nous disons que ce sont des enfants dont on a volé leur enfance. Alors nous devons procéder à une réhabilitation d'abord psychosociale. Nous avons moins d'équipes de techniciens psychologues qui nous aident à réhabiliter psychologiquement ces enfants-là. Mais aussi, nous les accompagnons par des projets de réinsertion socio-économique. À travers ces projets, l'enfant commence à retrouver au moins son statut qu'il venait de perdre quand il est parti dans les groupes armés.
Et comment vous travaillez avec la MONUSCO et les autorités locales pour protéger les enfants et sensibiliser les communautés?
Nous avons chez nous un principe qui dit, pour protéger un enfant, il faut tout un village. Donc, il faut que tous les acteurs interviennent. Alors, parmi les acteurs, nous avons des acteurs incontournables. C'est d'abord le gouvernement congolais. Il a déjà mis en place des structures comme les PDDRCS. À travers les structures mises en place par le gouvernement congolais, nous faisons des sensibilisations, des mobilisations communautaires pour que cesse cette pratique. L'acteur clé, le deuxième, c'est la MONUSCO. Lui, il est incontournable parce que lui, il est à l'avant-plan. Il développe un mécanisme de dialogue avec les groupes armés. À travers ce dialogue, il parvient à obtenir l'engagement des responsables des groupes armés pour ne plus recruter les enfants. La phase qui doit suivre, c'est la séparation, même le transport des enfants du groupe armé jusqu'à là où les acteurs qui s'occupent de la prise en charge interviennent. À côté de cela, la MONUSCO nous aide beaucoup dans les projets de réinsertion socio-économique.
Quel message vous pouvez lancer à tous les responsables des groupes armés de la région de Beni, Butembo et Lubero qui continuent encore à recruter les enfants?
Ils doivent libérer tous les enfants qu'ils prennent en otage aujourd'hui. Ils doivent cesser de recruter les enfants. Ils doivent savoir que le recrutement d'enfants, c'est un crime de guerre. Donc, c'est une violation très grave des droits de l'enfant. Il n'y a pas vraiment d'excuses, il n'y a pas de motifs qui peut faire que je puisse prendre un enfant pour qu'il aille combattre à la place des adultes.
Germain Lufungula, merci.
C'est à moi de vous remercier, chers journalistes.
Et c'est la fin de ce journal préparé par Jude Mister Bilanda, mis son nom par Dieudonné Nyangasa. Babel Pongo Massimango vous l'a présenté. Nous vous remercions de votre attention. Passez une excellente journée, chers dominicales.